Et je vais inviter déjà Émile avec moi parce que je souhaite qu'Émile prie pour toutes ces personnes. Et pendant qu'Émile vient, je vais demander aussi à Monique de venir avec lui, à Willy de venir ici, à Anne d'être là, à Whitson, à Othniel. Je vais inviter Legrand. Je vais inviter Julie. Laquelle? Julie Mondor. Venez sur la chaire, on va prier aussi avec vous. Je vais inviter Gertrude, je vais inviter Lisa, je vais inviter Agnès, je vais inviter, elle n'est pas là donc je vais éviter de la citer. Je vais inviter Sarah, elle va quitter son petit trône. Je vais inviter Jessie aussi, je vais inviter Jonas. Je vais inviter Claude que j'ai omis tout à l'heure. Et je dirai un mot sur Claude tout à l'heure, mais je vais inviter Claude aussi à être là. Voilà. J'ai pas vu Christelle Meillou, elle n'est pas là. Est-ce que Christelle est là, Guy? Non, elle n'est pas là. Nous allons prier pour cette équipe-là et nous allons prier avec Émile. Il est où, Émile?
Dieu notre Père, nous voulons te bénir pour cette église de Créteil. Seigneur, tu nous as placés ici pour te servir. C'est toi qui es venu nous choisir. Tu nous as appelés à toi. Merci pour tous ceux qui ont répondu à ton appel. C'est vrai. Merci pour les dons que tu donnes à chacun et que tu bénisses chaque ministère. Merci de nous utiliser pour ta seule gloire. Garde-nous de tout orgueil. Merci de nous remplir d'humilité devant ta face, afin que toi seul sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu sois notre soutien jour après jour. Merci pour tous ceux que tu as choisis pour te servir dans cette église. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Donne-leur la joie de te servir, parce que sans joie, nous ne pouvons pas te servir. Enlève aussi dans le cœur des uns et des autres la tristesse, la peine, tout ce qui peut les empêcher de te servir. Donne-nous aussi, Seigneur, la volonté de faire toujours ce que tu attends de nous. Garde-nous de tout mal. Garde-nous de toute désobéissance. Que tu nous pardonnes, là, nous n'avons pas obéi à ta volonté. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs et tes servants. Nous te remettons aussi les responsables. Tu as établi le pasteur Serge. Donne-lui sagesse et discernement aussi pour conduire toute cette équipe selon ta volonté et pour ta gloire. Merci Seigneur de nous accorder ta paix. Merci de nous utiliser encore selon ta volonté pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Merci. Merci à Claude qui depuis quelques mois aussi est beaucoup plus actif, même s'il était déjà, et qui nous a aidés dans le lien avec la mairie à pouvoir justement réparer la petite trappe devant la porte d'entrée principale qui était problématique. Merci à toi. Merci aussi pour la porte de l'école de dimanche qui a été réparée par la mairie grâce au service de Claude. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Ce matin, je veux faire une courte méditation, mais pour nous rappeler que nous sommes ce peuple que Dieu veut lever, vivant, dynamique, pour justement faire le lien avec les autres personnes qui ne le connaissent pas. Je l'ai dit à la prédication du dimanche dernier, et pendant cette prédication, j'ai parlé d'un personnage qui n'était pas le personnage principal de la prédication du dimanche dernier. Le personnage principal, c'était Moïse, mais pour introduire Moïse, j'avais parlé de Joseph. Et j'aimerais corriger ce qu'on appelle quelquefois une confusion dans les récits des personnages bibliques. Il y a deux récits, il y a deux personnages qui ont été servis, qui ont été serviteurs de Dieu et que Dieu a utilisé pour interpréter des songes de deux puissants rois. Il y a Joseph qui a interprété les songes du Pharaon. Et plus tard, il y aura Daniel qui va aussi interpréter les songes du roi Nabucodonosor. Vas-y, s'il te plaît, encore. Et lorsque je parlais de Joseph, et je dois le reconnaître, j'ai fait une confusion. J'ai parlé d'une séquence qui n'était pas celle de Joseph, mais de Daniel. Joseph, lorsque le Seigneur l'a suscité, lorsque le roi, donc Pharaon, le roi d'Égypte, avait fait un songe, le roi d'Égypte n'a pas demandé à ce devin de lui dire le songe avant de les interpréter. Le roi d'Égypte, il a tout de suite dit le songe qu'il avait fait et il a demandé qu'on lui donne l'interprétation. Sauf que personne n'a été capable d'interpréter le songe du roi d'Égypte de Pharaon. Et Pharaon a été troublé. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai dit que le roi d'Égypte, donc que Pharaon a demandé qu'on lui donne non seulement le songe et qu'il n'allait pas le donner, et qu'on lui en donne aussi l'interprétation. Ce n'était pas le roi d'Égypte qui l'avait demandé. C'est plutôt le roi de Babylone. C'est Nabucodonosor qui avait dit, dans la séquence que vous voyez en vrai, dans Daniel 2, il a dit, moi j'ai été troublé, mais je dirai le songe à personne pour que je sois sûr que l'interprétation est juste. Il faut que les personnes me donnent non seulement le songe que j'ai fait, mais ensuite ils m'en donnent aussi l'interprétation. Et dans Daniel, c'était encore plus grave puisqu'il a menacé de mort tous les astrologues, tous les magiciens, tous les sages de son royaume s'ils n'étaient pas capables de lui dire et le songe et l'interprétation. Et l'un des astrologues, on va dire le délégué des astrologues a dit dans Daniel 2, il dit, mais ce que tu nous demandes, roi, aucun roi avant toi ne l'a jamais demandé. Et il n'y a personne sur la terre qui est capable de dire à quelqu'un le songe qu'il a fait dans sa nuit, sur son lit tout seul, et d'être capable de lui donner l'interprétation. Et le roi Nabucodonosor a dit quand même, malgré ça, on dit, il fut irrité, il a dit, ma loi ne changera pas si vous ne me donnez pas le songe et l'interprétation. Il a pris un décret royal qui mettait à mort tous les sages, tous les astrologues, tous les magiciens de son royaume. Et comme Daniel était considéré comme un sage, il était aussi sur cette liste-là. Et c'est comme ça que Daniel rentre en scène et que Daniel, lui plutôt, il va prier le Seigneur, il va dire à ses trois compagnons, prions pour que Dieu non seulement nous donne le songe, mais aussi l'interprétation, pour non seulement préserver nos vies, mais pour préserver la vie de tous les sages, tous les mages et tous les autres du royaume. Donc il n'a pas intercédé que pour lui, il a intercédé même pour les autres. Et le texte dit que Dieu lui a donné non seulement le songe, mais aussi l'interprétation. Et il y a une grande séquence de louanges de Daniel où il loue le Seigneur parce que le Seigneur lui a révélé cela. Et j'aimerais faire ce tératome, je voudrais vous demander pardon, m'excuser pour cette confusion de cette séquence. Et j'aimerais aussi nous inviter, puisque on dit les chrétiens des Bérées, quand l'apôtre Paul prêchait, il vérifiait dans les Écritures si ce que l'apôtre Paul avait dit était vrai. Et j'aimerais bénir un frère qui le fait depuis que je suis ici en 2017, le frère Eric Zali. C'est un peu celui qui veille sur mes textes. Et quand j'ai fini la prédication de dimanche dernier, il a dit, pasteur, t'es sûr que c'est Joseph qui a... Il dit, c'est pas plutôt dans Daniel? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me troubles un peu. Et lui et moi, on a vérifié et il avait bien raison que cette séquence-là, le roi d'Égypte n'a pas demandé qu'on lui dise le songe. Il a demandé qu'on lui interprète le songe, sauf qu'il n'y avait personne capable pour lui interpréter le songe. Et c'est Joseph qui a été le seul à le faire. Voilà pour ce qu'on appelle en littérature l'ératum, donc la correction. Et c'est important de le faire parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et j'ai été malade toute la semaine à cause de cela. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Et nous avons besoin d'être fidèles à cette parole-là. Maintenant que je l'ai fait, mon âme est en paix devant Dieu, mais aussi devant l'Église de Dieu pour laquelle il m'a mandaté pour enseigner. Et je veux nous encourager. S'il se trouve des choses comme ça, quand vous expliquez la parole à quelqu'un et que vous avez un doute, il faut vérifier. Et si vous avez vérifié, il faut avoir l'honnêteté de le corriger. Même si ça peut paraître désobligeant, ce n'est pas notre parole à nous, c'est la parole de Dieu. Il faut être fidèle. Parce que Jésus dit clairement, celui qui enlève un iota, attention à lui, et Jacques dit, car les enseignants seront sévèrement. Bref, ça nous met non seulement une bonne pression, mais ça nous donne aussi d'être fidèles au texte. Et je veux bénir Dieu qui m'a permis de faire cette correction et ce frère qui a été vigilant par rapport à ça. Ceci étant dit, merci Sarah. Vas-y encore. Donc le texte, vous l'avez là. Donc c'est Genèse 41 et puis l'autre texte, c'est Daniel chapitre 2. Vas-y encore. Vas-y. Et pour les 10 minutes qui nous restent, nous inviter à réfléchir sur nos objectifs pour lesquels nous sommes là. Ce que nous souhaitons dans cette communauté, c'est que chacun de nous puisse s'affermir en Christ, c'est que chacun de nous puisse continuer à chercher à atteindre la maturité dans l'amour de Dieu, et que chacun de nous puisse vivre avec l'idée que nous avons ce mandat de nous multiplier, c'est-à-dire de partager cet amour de Dieu aux autres, de faire en sorte que les autres puissent être impactés, touchés. En tout cas, c'est ça que Dieu nous donne. Et comment on veut le faire? On veut le faire avec 5 objectifs que je rappelle depuis quelques années, que je rappelle chaque début d'année, les 5 objectifs pratiques que nous tirons de ce texte des Actes des Apôtres. Et le premier objectif, c'est avoir une vision d'amour. 1 Jean chapitre 4, versets 11 et verset 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est un défi pour cette communauté, c'est un défi pour chaque chrétien de notre Église. Nous voulons laisser Dieu nous modeler, ressembler à ce Dieu. La Bible dit, car Dieu est amour. Que Dieu nous aide. C'est un défi. Il y a des périodes où ce n'est pas simple. Il y a des moments où c'est très difficile de vivre cela, mais l'Esprit de Dieu est là et c'est lui qui nous aide à le faire. C'est l'un de nos objectifs, il faut le garder haut. C'est lui qu'il faut atteindre. Il ne faut pas baisser cet objectif, il faut le laisser haut. Il faut tendre vers ça. Avec tout l'effort dont je vous ai parlé selon l'apôtre Pierre, dans l'épître dont je vous ai parlé, faites tous vos efforts pour vous aimer les uns les autres. Deuxième objectif pour nous dans cette communauté, c'est de nous laisser modeler par la parole de Dieu, par la Bible, un enseignement de qualité. Et je vous rends toujours alerte. Depuis le Covid, depuis que Internet a fait son éruption un peu plus massivement dans nos vies, avec tous les sites chrétiens, faites attention. Tous ceux qui disent qu'ils parlent de Dieu sur la toile ne sont pas dans la saine doctrine. Faites attention. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous doit travailler cela. Mais celui qui garde la parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si nous gardons, garder ici, c'est chercher à étudier, à comprendre, mais comprendre pour pratiquer. C'est ça, garder. Que Dieu nous aide. Que chacun de nous ici puisse être un amoureux de la Bible. Un amoureux de la Bible dans le sens où méditer régulièrement. Lis ce texte, le laissez nous parler. Si on le lit sans qu'il nous parle, Jésus dit qu'on est au milieu du chemin, on n'a pas encore fait tout le chemin. Il faut qu'il s'achève par une application dans nos vies, n'est-ce pas? Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques. C'est ce que nous faisons les cultes. Au culte, nous chantons la gloire de Dieu et en plus, nous prêchons la parole de Dieu. Donc venir à l'église dimanche, C'est super important. Ce n'est pas une option, en fait. Ça doit faire partie de notre quotidien. Venir à l'église pour chanter des hymnes, pour chanter des cantiques, mais aussi pour être exposé à la parole de Dieu. Troisième, une vie de prière de qualité. Un chrétien qui ne prie pas, en général, théologiquement, ce n'est pas tout à fait exact, mais pour notre compréhension, on dit que nous avons deux accents en tant que chrétien. La méditation de la parole et la prière. C'est les deux accents, comme les deux pieds de nous qui sommes des hommes. Pour être équilibré, c'est les deux. La parole et la prière. La prière, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent, ça c'est un texte fort que Jésus dit aux apôtres, qui met l'accent sur la prière communautaire. Prier ensemble a une force. Je l'ai déjà dit, je le répète, et on le trouve dans l'histoire de cette reine qui est maintenant décédée. Reine d'Angleterre disait qu'elle n'a pas peur de ses soldats, mais ce dont elle a peur, c'est quand les chrétiens se mettent à genoux pour prier. Parce qu'elle, elle était convaincue que quand les chrétiens prient, Dieu entend et Dieu exauce. Combien de chrétiens, combien d'entre nous sommes, des fois, nous sommes fébriles dans nos prières. Et Jacques dira que parfois, quand nous prions, c'est comme si on n'est même pas convaincu avant d'ouvrir la bouche que Dieu est capable d'entendre. Il dit, nous sommes comme les vagues de la mer qui écument, qui font un va-et-vient incessant, mais en fait, qui sont sans consistance. Que Dieu nous aide. Nous voulons être des hommes et des femmes qui prient. Que quand des personnes sont dans des situations et qu'elles nous présentent les sujets, nous, notre travail, c'est de présenter cela à Dieu avec conviction et hardiesse. Ce n'est pas à nous de réfléchir, est-ce que Dieu va répondre, comment il va répondre. Ça, c'est le travail de Dieu. Nous, notre travail, c'est de dire, Seigneur, voici la situation, on te demande, avec insistance, on t'invoque, viens au secours. Et quand c'est des moments de joie, on le bénit, on le loue, on le remercie aussi. C'est ça la prière de qualité, les bien-aimés. Que cette église soit une église où on prie, où les mardis, il y a du monde ici, pour crier à Dieu, pour porter des sujets. On parlait hier à la réunion des responsables de cette expérience que certains ont vécue, que moi aussi j'ai vécue, cette personne qui a franchi les pas de cette église et qui est venue juste pour confier son sujet de prière, juste pour ça. Avec la conviction que ce que nous on allait faire ici était plutôt vrai que ce qu'elle allait faire à la maison. Oui, une personne de l'extérieur qui estimait que si l'église priait, c'était plus probable que Dieu écoute que plutôt elle-même ça priait parce qu'elle-même, elle n'arrivait plus à prier. C'est pour ça que nous sommes là. Un peuple qui prie, un peuple qui est à genoux, un peuple qui est devant le trône de la grâce et qui permet à Dieu d'agir dans le monde. Les théologiens disent que Dieu agit dans le monde au travers de la prière des chrétiens. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, votre prière n'a pas cette vivacité. Soyez convaincu que Dieu, d'après la parole de Dieu, d'après tous les personnages bibliques qu'on voit, d'après tous les textes qui parlent de prière, Dieu agit aussi avec la prière des chrétiens et des chrétiennes et de l'Église. Quatrième et avant-dernier. Un accueil de qualité. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il nous a montré le chemin. Quand on lit les évangiles, on est frappé. Toutes les personnes que Christ a accueillies pendant 3 ans, sans distinction de catégorie sociale, sans distinction de race ni de couleur. Et même là où on disait que c'était l'exclusivité des Juifs, il dit non. Il a ouvert la porte à toutes les races, à toutes les tribus pour être accueilli, à toutes les classes sociales, à toutes les conditions humaines. Il a même touché des lépreux qui étaient intouchables à cette période-là et qui ont été marqués par cet acte de Jésus. Non seulement les lépreux étaient considérés comme une maladie contagieuse, mais elle était considérée aussi comme une contagion spirituelle. Donc celui qui touchait un lépreux, non seulement prenait le risque de se contaminer par rapport à la maladie, mais se rendait impur religieusement. Et Jésus fait ça. Il les touche. Il ne prie pas juste pour eux, il les touche. Il les accueille. Jésus accueille une femme dont la vie a été brisée parce que les conditions de vie ont fait qu'elle est prostituée. Mais elle sait que ce n'est pas ça, ce n'est pas sa dignité qui est là. Elle s'approche chez soi là, dans cette maison-là. Elle pleure sur les pieds de Jésus. Elle le sue, ses pieds, avec ses cheveux. Et Jésus dit, on parlera de cette dame. À chaque fois qu'on évoquera cet épisode, on parlera de cette dame parce qu'elle est venue chercher mon réconfort. Il dit, car ce sont les malades qui ont besoin des médecins et non pas les bien portants. Et dans la généalogie de Jésus, il y a une femme qui s'appelle Rahab. Elle fait partie des ascendants de Jésus. C'était une prostituée, mais que Dieu a restaurée. Alléluia! On ne peut pas définir quelqu'un par rapport à une activité à un moment donné si la personne a changé de vie. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui change les gens. C'est pour ça que nous avons de l'espérance. Accueillir, c'est important. Nous voulons être une église qui accueille. Pas de façon superficielle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais de façon profonde. Que Dieu nous aide à l'être. Et enfin, une présence de qualité. Nous voulons être de ces communautés vivantes. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, si vous allumez une lumière, que vous la cachez, à quoi ça sert? Mieux vaut ne pas la lumière. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui, le soir dans sa maison, allume la lumière et puis après, qui monte et qui cache la lumière? On va appeler les services psychiatriques parce que là, il doit avoir quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi allumer une lumière et la cacher ensuite? Et Jésus utilise une expression très forte parce que à cette période-là, la plupart des grandes villes étaient sur des collines, en fait. Et pour qu'on les voie, c'était lumineux. Donc, de loin, on voyait ces villes, un peu comme les phares pour les marins. De loin, les phares sont là pour que le marin, même dans la nuit noire et sombre, il puisse voir le rivage. C'est pour ça que les ampoules des phares sont des ampoules très puissantes qui vont très loin. C'était pour qu'aucun de nos marins ne se perde en mer, même en nuit noire. Il dit, vous êtes cette lumière-là. Cette lumière-là, elle doit luire, elle doit briller, on doit la voir. Cette lumière de l'amour de Dieu doit se manifester. Et quelqu'un dit, peu importe la lumière que tu es, que tu sois une torche, que tu sois une bougie, que tu sois un néon, que tu sois un lampadaire, brille de la lumière que Dieu t'a donnée. Et nous voulons briller de la lumière que Dieu nous a donnée ici, pour que l'amour de Dieu soit manifesté. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, vous êtes le sel. Le sel est cet aliment qui non seulement conserve contre la pourriture, mais qui donne de la saveur. C'est ce que nous sommes. En tout cas, c'est la prétention que nous avons avec l'Esprit de Dieu d'être. Que Dieu nous aide. Que cette année encore, ce défi soit le nôtre. Individuellement, mais collectivement. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous fortifie et que la qualité que nous recherchons soit celle que si Jésus venait à rentrer là, ce matin, dans cette église, qui puisse dire, c'est bien ce que vous faites. Je suis honoré par ce que vous faites. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas juste de nous satisfaire que nous avons atteint nos objectifs. Non, il s'agit d'être là où Dieu veut pour que le Christ soit honoré et que les hommes soient aimés de l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide pour cette année. Que la gloire lui revienne. Amen.
Merci pour le message de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais demander à quelqu'un s'il peut passer dans les rangs pour récolter les offrandes. Le panier, il est au fond. Et pendant que le panier passe, je vais demander à notre frère Émile de se préparer pour les offrandes de la bénédiction et notre frère Claude pour les annonces.